Bon, bonjour, bonsoir. Ça m'étonne que vous êtes ici avec le soleil qu'il y a. Mais bon, bon, aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on a un invité, Nicolas Véron, que je veux introduire proprement un peu plus tard, parce que je vais quand même commencer mon récit, parce que je voudrais insérer son intervention au bon moment de notre récit sur la crise. Donc, je ne vais pas perdre du temps et commencer tout de suite un peu où on avait quitté l'autre fois. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé de la BCE et des banques. On a abordé la question de la réponse à la crise de liquidité des banques et aussi de solvabilité des banques. On a distingué entre deux périodes, 2007-2010, que nous avons caractérisé comme une crise généralisée des liquidités, et 2011-2014, qu'on a caractérisé comme une phase au cours de laquelle des problèmes de solvabilité sont apparus dans certaines institutions et dans certains pays. Et dans cette phase, nous avons souligné aussi les problèmes de la corrélation entre les risques souverains et les risques bancaires, the diabolic loop. Donc, les points principaux de ces deux cas, donc j'ai fait ce petit résumé aussi pour dire un peu à Nicolas comment on a abordé les problèmes. En fait, les points principaux étaient que la distinction entre les problèmes de liquidité et de solvabilité sur lesquels se repose de nombreux bons principes sur la politique des banques centrales, essentiellement théoriques. La règle de Bagot, vous vous rappelez, donc on a parlé de la règle de Bagot, est apparemment claire, logique, conforme au mandat étroit de la BCE. Mais dans la pratique, ces règles, ce n'était pas très utile, parce que la distinction entre illiquidité et insolvabilité est souvent impossible à établir en temps réel. Donc, en fait, quand on a des problèmes d'instabilité financière, les banques centrales agiront toujours pour défendre les systèmes monétaires, que ce soit dans les mandats ou pas. Mais on a aussi souligné que, compte tenu de la difficulté de séparer la liquidité de la solvabilité dans la pratique, la légitimité de l'intervention de la Banque centrale peut être mise en doute et menacer son statut d'institution indépendante. Et tout cadre politique fondé sur la capacité de distinguer donc entre ex ante entre liquidité et solvabilité est nécessairement un mauvais guide pour la politique monétaire. Et donc il faut réfléchir à tous les cadres institutionnels dans lesquels l'action de la Banque centrale en Europe était donc dans lesquels elle a opéré. Et je pense que dans ce sens-là, l'analyse du besoin de l'union bancaire que Nicolas fera plus tard, c'est essentiel pour comprendre un peu cette histoire. Notre cas d'étude aussi montre que pour éviter tout risque de légitimité de la Banque centrale, il est important de disposer d'un dispositif institutionnel. Donc, je reviens ici. Donc, à la contribution de Nicolas, fournissant des outils permettant de surveiller et de prévenir les risques financiers, ainsi que d'intervenir dans la résolution des crises de manière à protéger les contribuables. Voilà. Après tout ça, on a parlé de l'intervention de la BCE pas seulement pour les banques, mais... On a discuté des deux épisodes au cours de laquelle la BCE est intervenue pour soutenir des États souverains. Et donc, on avait commencé l'autre fois par la crise grecque et pour la fragilité au niveau bancaire et budgétaire de plusieurs juridictions en Europe. Donc, l'autre fois, en fait, on a discuté de la question générale, dans quelles conditions la Banque centrale a une légitimité à intervenir. Et donc, après ces discussions générales, on a abordé l'analyse de la première intervention, qui est donc le Security Market Program, que c'était la réponse de la BCE au début de la crise grecque. Et après, donc, comme on verra, la BCE a aussi intervenu dans le cas du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie ensuite. Donc, ici, vous avez donc les graphiques qu'on a commentés l'autre fois. Donc, ça, c'est une idée de la taille du programme de SMP. Je reprends un peu ce qu'on a déjà dit l'autre fois, mais bon, je pense que c'est utile pour maintenir une continuité. Donc, ce programme était mis en place en mai 2010, après, comme on a vu, beaucoup d'hésitations, dans laquelle la BCE a essayé d'intervenir pour convaincre le gouvernement à agir. Bon, donc on a déjà raconté l'histoire. Et ce programme implique des achats directs de dettes souveraines grecques. Donc, c'était la première fois dans laquelle la Banque centrale n'intervenait pas simplement avec des prêts aux banques, dans lesquels bon, les soutiens à l'État, si vous voulez, étaient indirects, mais intervenait directement pour l'achat de titres souverains sur le marché secondaire. Donc, ces achats souverains par la BCE ont été cruciaux pour éviter un défaut sévère de la part de la Grèce et soutenir les financements immédiats à l'État grec pendant que les programmes de la Troïka, donc dans lesquels aussi l'FMI, donc la Commission européenne, est intervenue, étaient mis en place. Comme on avait déjà dit la fois dernière, malgré ces programmes, avec lesquels un total de 223 milliards d'euros sera dépensé, l'effet sur le différentiel des taux souverains est resté limité et la contagion a également gagné l'Italie et l'Espagne. En effet, en août 2011, les SMP étaient étendus à l'Italie et l'Espagne, comme vous voyez, en 2011, donc, vous verrez une grande augmentation de l'intervention de la BCE, donc, vous le voyez dans les graphiques. Mais encore, même avec cette double en fait, d'intervention de la part de la Banque centrale, les effets sur les différentiels des taux souverains ont été faibles. Donc, on considère cette première essaye de la part de la BCE d'intervention sur les marchés de la dette souveraine comme un échec. Et donc, une des choses que je voudrais analyser avec vous est le pourquoi de cet échec et le comparer à un autre épisode, que c'est l'épisode en 2012, dans lequel Draghi a annoncé l'outright monetary transaction, qui était un autre programme, qui était simplement annoncé mais jamais mis en place. En fait, pourquoi ce programme 2012 a eu des effets positifs sur les différentiels des taux et donc était important pour soulager donc, les contraintes financières dans les pays de la périphérie de l'Europe. Pourquoi donc un succès en 2012 et pas en 2010? Donc, je pense que je vais reprendre cette discussion un peu aussi la fois prochaine pour pouvoir donner aujourd'hui de l'espace à Nicolas. Mais je vais quand même dire quelque chose comme introduction à ce débat. Donc, je vais continuer un peu l'histoire pour donner une base sur laquelle on pourrait donc avoir cette discussion. Donc, ça, c'était une promenade assez romantique. Oups, pardon. C'est trop romantique. Donc, non, et voilà, vous reconnaissez, j'imagine, ces deux personnages, donc Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et ça, c'est la plage de Deauville, donc c'est en octobre 2010. Et donc, cette situation en fait, dans laquelle, donc, c'est en octobre, hein, au mois de mai, la BCE était intervenue avec les... Qu'est-ce qui se passe à Deauville, en fait? En fait, les présidents... En fait, ce que Sarkozy et Merkel convient pendant cette promenade, c'est d'accepter les principes selon lesquels l'implication du secteur privé dans la résolution de la crise souveraine grecque était une condition préalable au soutien fiscal des pays en difficulté. Donc, c'était la première fois qu'on met on considère la possibilité donc d'imposer un coût pour les créanciers de la dette souveraine. Donc, ça, c'est très important pour notre réussite. C'est un accord franco-allemand. C'est pas quelque chose qu'on a discuté au niveau fédéral, la Commission, la BCE. La BCE était très active dans la discussion auparavant, donc on a vu ça. Mais en fait, cette décision était prise par l'Allemagne et par la France. Donc, c'est intéressant ici de faire les rapports avec toute la période qui a précédé l'introduction de l'euro. Donc, on a dédié une de nos leçons à l'histoire de comment on est arrivé à Maastricht. En fait, dans lequel on a vu aussi donc, que ces accords bilatéraux entre la France et l'Allemagne étaient dans des périodes cruciales très importantes. Et ça, c'est un autre épisode dans lequel, effectivement, c'est l'Allemagne et la France qui donc rentrent dans cette situation avec un accord. Un accord sur lequel ces principes de la private sector involvement, c'est un principe sur lequel la BCE était complément contraire, parce que impliquait bon, l'idée qu'en fait, ce qui trichait les autres dans la Banque Centrale Européenne craignait que les marchés auraient une réaction à cette annonce. Et donc, commencer à soupçonner la possibilité que des différents États dans la zone euro auraient pu, la dette de ces États aurait pu être restructurée et donc que les créditeurs auraient été affectés par cette restructuration. Cette histoire, c'est encore très très controversée. Est-ce que il faut avoir un système et des règles pour la restructuration de la dette dans la zone euro ou pas? Donc il y a encore différentes positions sur cela. Donc je vais aborder ce sujet la prochaine fois parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc c'est à ce moment dans notre récit que donc ces problèmes est discuté dans l'ensemble des pays de la zone euro et aussi au niveau de notre institution fédérale. Dans une certaine façon, on peut dire que l'accord de Deauville, c'était aussi un moment de vérité dans lequel l'insoutenabilité de la dette publique dans certaines juridictions est reconnue. Et donc les principes selon lesquels une dette ne doit pas toujours être remboursée à 100% étaient acceptés. Donc ça, c'était un bon principe, OK? Voilà. Les problèmes. Donc, on discutera plus tard de cette discussion. Donc, pour la discussion d'aujourd'hui, il est important de noter que l'accord de Deauville était communiqué au marché très mal, était en fait mal compris. Donc, il y a deux questions. Est-ce que c'était un bon principe? Est-ce qu'il faut avoir dans la zone euro un mécanisme pour la restructuration de la dette? Sans un mécanisme sur la restructuration de la dette, avec les principes du traité de no bailout et no monetary financing, ça laisse la zone euro avec seulement un instrument, qui c'est un instrument qui ne fonctionne pas toujours, parce que si on ne peut pas restructurer, on ne peut pas être bailed out. Donc, soit on sort de la zone euro, soit il faut être maintenu en vie avec des programmes qui sont très durs, comme, qui sont très durs et aussi, aussi insoustenables et irréalistiques. Donc, les problèmes de Deauville, c'est donc Deauville était critiqué. Quelquefois été critiquée par les principes, mais elle était mais aussi pour les gens qui sont en faveur de la principe que les créanciers privés doivent être impliqués dans les cas dans une crise souveraine. L'accord était critiqué parce qu'en fait, il n'était pas bien communiqué au marché. En fait, les marchés n'ont pas interprété ces principes annoncés à Deauville comme quelque chose qui devait être utilisé rarement dans l'architecture financière européenne, mais ils ont interprété au contraire comme un signe que les secteurs officiels insisteraient sur la restructuration de la dette dans la crise qui était en cours. Et donc, en fait, immédiatement après cette annonce, on a eu un immédiat contagion du risque grec aux deux pays qui étaient les plus fragiles, donc la Grèce et le Portugal. Le Portugal et l'Irlande, pardon. Donc, alors ça, vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas pourquoi ça. Quelqu'un doit m'aider parce que ça saute, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, vous avez l'écart de taux avec les titres allemands à 10 ans. Ici, bon, l'échelle est très différente parce qu'en Grèce, les risques souverains étaient explosés. Donc déjà ici, donc ça c'est ce qu'on avait commenté l'autre fois. Ici, il y a la déclaration de Deauville. Vous voyez donc qu'immédiatement, dans la pression sur les taux des pays plus fragiles, donc l'Irlande et le Portugal. Pour le moment, au début, donc, l'Italie et l'Espagne n'étaient pas affectées, mais après, en 2011-2012, l'Italie et l'Espagne étaient aussi affectées. Et donc, voilà. Donc, vous voyez ici, là, c'est l'écart des taux avec les titres allemands à 10 ans. Et ici, vous avez... les credit default swap, donc c'est les contrats d'échange des risques de crédit, donc ça vous donne une idée du risque financier aussi après la déclaration de Deauville. En fait, c'est... Donc, en fait, si on peut vous rappeler qu'on avait vu l'histoire des écarts dans les taux, des taux d'intérêt sur les taux souverains entre les taux d'intérêt des pays de l'euro et l'Allemagne. Et donc, avant 2010, on pourrait dire qu'on avait une espèce de good equilibrium avec no default risk premium, des taux d'intérêt qui étaient très proche, enfin pratiquement identique entre les différents pays européens et pratiquement l'élimination du risque de crédit, donc une espèce d'endormissement généralisé des marchés. Et avec les tensions de la Grèce et ces différents. Et donc entre 2010 et 2012, donc on passe d'un good equilibrium à bad equilibrium. Avec avec high sovereign risk yield et high credit risk, etc. Évidemment aussi un empirement de la position fiscale des pays, en partie parce que il y a la crise bancaire, ça c'est surtout l'Irlande et l'Espagne, en partie la fragilité de la situation budgétaire due évidemment au grand choc de la crise internationale de 2008 et 2009. Voilà. Donc, l'Italie et l'Espagne, en août 2011, la BCE étendu le programme SMP, comme on avait vu dans l'autre graphique, à l'Italie et à l'Espagne. Le programme a toutefois échoué Et la raison fondamentale était l'absence d'un mandat solide pour cette politique que la BCE elle-même qualifiait de programme limité. Comme on avait vu, le SNP était annoncé comme un programme limité, temporaire, plutôt que de véritables soutiens à toutes conditions de la crise souveraine. Donc, c'était en fait une intervention, le SNP, qui n'a pas convaincu au marché de passer du bas d'équilibre ou de retourner au good d'équilibre. C'était donc beaucoup d'argent a été dépensé en fait, pour acheter ces titres publics, mais à la fin, ça n'a pas réassuré les marchés, parce que la doute d'une possible restructuration est restée, et surtout... est devenu un doute très alarmant pour ce qui concerne le cas de la fragilité de l'Espagne et de l'Italie, qui évidemment étaient des pays beaucoup plus grands que la Grèce, l'Irlande et le Portugal. Et donc, voilà, donc il y avait une certaine inquiétude. Aussi, un manque de soutien politique au programme du SNP. En fait, il faut rappeler que le président de la Bundesbank, Axel Weber, a démissionné en avril 2011 jusqu'à la suite d'une controverse avec l'action de la BCE. Donc, lui, il faisait partie du Governing Council et donc il donne sa démission en avril 2011. Évidemment, ça n'a pas rassuré les marchés non plus parce qu'il indiquait donc un manque de soutien de la partie de l'Allemagne de ce paquet de politiques. Une autre chose, donc en plus, bon, la BCE conditionnait l'intervention sur les politiques de réforme et exerçait des pressions bilatérales sur le gouvernement dans cette direction. Ce qui a amené la BCE à jouer un rôle presque politique dans cette phase de la crise. Et en fait, début 2011, donc on est encore sous Trichet, mais donc ça c'est le moment du passage entre Trichet et Draghi, la Banque centrale européenne a adressé une lettre au président du Conseil italien Berlusconi, signée par le président Trichet et le futur président Draghi, indiquant que des mesures anti-imposition qui devaient donc mettre en place des mesures de réforme en Italie en toute urgence et donc exerçant, si vous voulez, un rôle presque politique par rapport à un État souverain, ce qui aussi ne s'était jamais passé dans l'histoire de la BCE. Donc, voilà, c'est que donc, ces programmes donc, étaient plutôt élevés en sens de la dimension, étaient surtout dédiés à la Grèce, au Portugal, l'Irlande, l'Espagne et l'Italie, donc avec une connotation géographique très claire. Donc, c'est évident qu'ils étaient controversés. Et donc, c'était un moment très triste dans cette histoire parce que c'était un moment dans lequel donc, le consensus autour de la politique d'une institution indépendante était très affaibli. Donc, voilà, ça, c'est l'aspect noir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe En juillet 2012, donc la crise continue, donc on va reprendre ça la prochaine fois, donc parce que j'ai 5 minutes avant de donner la parole à Nicolas. La crise continue et en juillet 2012, donc maintenant c'est, la lettre à Berlusconi, c'est l'été de 2011. En novembre, Draghi devient président de la BCE. Les programmes SNP étaient... était terminé. Et donc Draghi met en place des autres mesures par rapport aux banques. Et on a discuté de ces mesures l'autre fois. Donc, mais la chose fondamentale qu'il fait, qu'en juillet de 2012, et donc on a vu aussi que donc, les mesures par rapport aux banques, dans cette situation, on n'a eu pas les effets espérés. Donc, c'est... Mais en juillet 2012, en réponse à l'aggravation de la dette souveraine, Draghi déclara lors d'une conférence à Londres, Et ici, je cite, même s'il n'a pas parlé en français, mais a parlé en anglais. Donc, c'est ma traduction. Dans le cadre de notre mandat, la BCE est prête à faire tout ce qu'il est nécessaire pour préserver l'euro. Et croyez-moi, cela sera suffisant. Donc, cette espèce de cette communication qui était très claire au niveau de l'engagement de l'institution par rapport au problème de la dette, c'est ce qui, en fait, c'est qui change complètement les conditions des marchés. À ce moment-là, même s'il n'a rien fait, il a simplement dit « je vais faire », donc, on passe, ça, donc, le programme qu'il a annoncé et qu'il n'a jamais mis en place, c'était Outright Monetary Transaction, donc c'était la promise d'une intervention illimitée au soutien de la dette souveraine avec une conditionnalité. Donc, c'était des interventions qui étaient conditionnées à certains politiques. Donc, on n'a jamais encore essayé si ce programme marche ou pas. Surtout, la question de la conditionnalité, c'est pas évident pour une banque centrale de gérer ça. Mais en fait, ce que les marchés attendaient, c'était un engagement d'un soutien illimité. Donc, la différence entre le S&P, c'était cet engagement de l'intervention illimitée. Et c'était aussi le fait que donc il n'y avait pas, comme dans la question de l'SMP, la question de la subordination de la dette privée par rapport des créditeurs privés par rapport aux créditeurs publics, comme on a discuté l'autre fois. Qu'est-ce que je vais encore dire? Donc pour moi, l'important dans le cadre de ces cours, c'est de réfléchir sur cette différence. Pourquoi l'annonce de l'ONT, contrairement au CMP, fut-elle un succès? À mon avis, enfin, on va encore toucher cet argument en profondeur, l'intervention de l'ONT dans cette phase de la crise européenne peut être vue comme un compromis. L'on reconnaît, d'une part, qu'un mauvais équilibre résultant d'une crise autoréalisatrice est possible. On a parlé des crises autoréalisatrices l'autre fois. Mais aussi, d'autre part, la question de l'aléa moral due au rôle des problèmes de solvabilité sous-jacent était aussi acceptée. Et ici, donc, on mettait... en autre terme, ces mécanismes de conditionner l'intervention à des réformes étaient là juste pour adresser les problèmes d'aléa moral. En d'autres termes, on peut considérer l'OMT comme un mécanisme permettant de trouver un compromis entre les risques d'aléa moral, et donc avec les risques qui comportent pour la stabilité des prix qui est au centre du mandat de la BCE, et l'instabilité financière à travers une solution qui conditionne l'action publique à des réformes. Est-ce que ça, c'était possible parce que Draghi était un meilleur banquier central de Trichet que Trichet? Bon, moi, je pense que non, parce que j'ai travaillé pour Trichet, donc j'aime beaucoup Trichet, mais pas seulement sur ça. Parce qu'en fait, et ici, donc, je vais introduire Nicolas immédiatement, les contextes institutionnels dans lesquels Draghi a opéré, donc c'était en 2012, étaient changés. Donc, on avait mis en place les mécanismes de stabilisation européenne, les SME, MES, je pense en français. L'union bancaire était créée. Donc, il y avait eu un accord sur l'institution d'une union bancaire dans la zone euro. L'essentiel est que l'OMT a bénéficié d'un accord politique entre les principaux pays. Donc, Angela Merkel a notamment apporté son soutien malgré l'opposition de la Bundesbank. Donc, même si la Bundesbank n'était pas du tout d'accord, et donc Il y a eu des controverses sur la légitimité de l'OMT en continu. La partie donc, fiscale, politique, qui est, comme j'ai plusieurs fois répété dans ce cours, vraiment qui donne la crédibilité à l'action de la Banque centrale, donc c'est les Samson qui carry the weight. Donc, il y avait implicitement un fiscal backing, on appelait ça fiscal backing par rapport à cette action. Donc, la crédibilité de l'OMT était due à un nouvel accord avec les autorités fiscales souveraines et sur le partage des responsabilités et donc impliquait aussi la construction des nouvelles institutions. Et donc, et parmi ces nouvelles institutions, la plus importante était donc l'Union bancaire. Voilà, donc nous, on va revenir dans tout cela, parce que bon, je vais revenir plus la prochaine fois un peu plus sur ces débats de sur la restructuration, parce que c'est important pour comprendre la réforme européenne sur laquelle on discute maintenant. Mais maintenant, j'introduis Nicolas Véran, qui était très gentil de venir m'aider dans ces cours. Donc, quelques mots sur lui. Nicolas a cofondé la think tank de Bruegel à Bruxelles, qui est une des think tanks plus importantes en Europe, et a rejoint l'Institut Peterson d'économie internationale à Washington en 2009. Et actuellement est employé en partie à Bruxelles, à Bruegel, et en partie à Washington, au Peterson. Ses recherches portent principalement sur le système financier et les politiques des services financiers. Il informe fréquemment des hauts responsables de la politique économique en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et donc, était témoin lors d'audiences parlementaires au Sénat américain, au Parlement européen et dans plusieurs États membres européens. Et il a été expert en politique financière pour la Commission européenne. Donc, si je vais lire tout ça, donc, c'est la fin du cours. Mais bon, enfin, je vais un peu. Donc, en fait, pour les Français, c'est important quand même de savoir qu'il est diplômé à l'École polytechnique et l'École des mines en France. Et il a, avant de se lancer dans ses rôles plutôt internationaux, a occupé aussi des postes responsables dans les secteurs publics et privés français dans les années 90 et au début des années 2000. En septembre 2012, Bloomberg Markets a inclus Véran dans sa liste annuelle des 50 plus influents, en référence à son plaidoyer précoce en faveur de l'Union bancaire européenne. Donc, je pense qu'il est donc l'invité idéal pour intervenir à ce moment-là de cette analyse de la crise. Merci, Nicolas.
Merci beaucoup, Lucrezia. Merci d'abord de m'avoir invité à participer à ce cours, également d'avoir été très flexible dans le choix de la date, parce que le fait que je travaille à la fois aux États-Unis et en Europe rend ma logistique parfois un peu compliquée. Effectivement, je vais parler de l'union bancaire, je vais parler notamment, je vais essayer de résumer en fait de quoi il s'agit. Je vais garder cette image à l'écran et notamment je vous encourage à essayer de regarder seulement la partie gauche de l'écran, puisque la partie droite est un peu plus compliquée à cause des programmes d'assistance du FMI, du mécanisme européen de stabilité, etc. Donc faisons-en abstraction, gardons simplement l'image de gauche en tête. Et l'image de gauche vous montre qu'il s'est passé quelque chose de très important au milieu de l'année 2012. Et donc je vais revenir, Lucrezia en a parlé à l'instant, le programme OMT, Draghi à Londres, disant voilà, on fera ce qu'il faut pour pour sauvegarder la viabilité de la zone euro, mais je vais revenir sur ces circonstances-là. Donc Lucrezia a un peu décrit ce qu'est mon travail. Donc je travaille dans deux centres de réflexion sur les politiques économiques, donc des think tanks, à Bruxelles et à Washington. Je dirais que mon regard sur le sujet aujourd'hui, c'est un regard qui n'est pas entièrement neutre, c'est un regard engagé. Ce n'est pas un regard politisé, mais c'est un regard engagé, puisque l'activité qui est la mienne dans ces centres de recherche, c'est de développer une analyse, mais aussi de faire des recommandations politiques publiques aux responsables publics, que ce soit des responsables plutôt technocratiques, comme les gens qui travaillent dans les banques centrales, ou plutôt politiques, dans l'objectif, c'est la raison d'être de ces think tanks, de contribuer à de meilleures décisions de politique économique, et notamment au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça, par exemple, que tu as mentionné, Lucrezia, la citation de Bloomberg. La raison pour laquelle il m'avait mis dans cette liste, ce n'était pas la qualité académique de mes travaux, mais c'était plutôt le caractère un peu obsessionnel à l'époque de, comme tu l'as dit, mon plaidoyer pour l'union bancaire. Ce n'était évidemment pas le seul. Il y avait beaucoup de gens qui développaient le même type d'argument. Et ça a été un très bel exemple, à mon avis, d'interaction entre le débat sur les enjeux de politique publique entre experts, entre spécialistes, et en même temps la prise de décision publique, y compris au niveau politique, comme l'a dit Lucrezia, et comme je vais y revenir dans un instant. Alors, le point clé de l'union bancaire, c'est ce qui a déjà été mentionné il y a quelques minutes, c'est-à-dire le cercle vicieux entre banques et États membres au sein de la zone euro, ou plus exactement entre systèmes bancaires nationaux et États membres de la zone euro. En d'autres termes, au lieu d'avoir... Et ça, ça a été la grande découverte de la crise, en fait. C'était quelque chose qu'aucun analyste n'avait vraiment bien compris avant la crise. Et c'est assez surprenant, rétroactivement, de voir cette espèce de point aveugle du débat analytique sur la zone euro. Il y a eu toute une série, au cours des années 90 et dans une moindre mesure des années 2000, il y a eu toute une série d'articles critiques sur la zone euro. Il y a toute une littérature qui dit « l'euro, ça ne peut pas marcher, il va se passer tel problème ». Mais d'une certaine manière, je crois, je parle sous le contrôle de Lucrezia, mais aucune de ces critiques précoces de la zone euro n'avait vraiment bien caractérisé ce qui a failli conduire à l'éclatement de la zone euro, c'est-à-dire le cercle vicieux, ce qu'on appelle entre économistes le cercle vicieux banque souveraine, ou plus exactement entre systèmes bancaires nationaux et finances publiques des États membres respectifs. Donc ça a été un processus de découverte collective. Qu'est-ce que c'est que ce cercle vicieux? Il a été déjà analysé et décrit par Lucrezia. Je vais le remettre un peu à ma sauce, si vous me permettez, donc essayer de le décrire sous trois angles différents qui se complètent, qui sont complémentaires les uns des autres. Un angle financier, un angle économique, un angle politique. Et ça va être mon introduction à l'union bancaire, puisque ma compréhension de l'union bancaire, c'est une initiative de politique publique dont l'objectif, proclamé et réel, est de rompre le cercle vicieux entre systèmes bancaires nationaux et finances publiques des États membres respectifs. Alors, j'ai dit trois composantes, une composante financière, une composante économique, une composante politique de ce cercle vicieux. Je vais rentrer maintenant un peu dans les détails. À partir de là, à partir de ce cadre analytique, si vous voulez, dire très brièvement ce qu'est aujourd'hui l'union bancaire, comment elle s'est développée et dans quelle mesure elle est inachevée. L'aspect financier du cercle vicieux entre banques et souverains, il est assez simple. C'est une dynamique de contagion qui correspond au mauvais équilibre dans l'image précédente que vous avez vue de Lucrezia. Plus spécifiquement, il y a deux mécanismes essentiels à ce titre. Il y a le fait que les États membres, donc les gouvernements des États membres, apportent des garanties explicites et implicites sur les passifs bancaires, c'est-à-dire que de manière explicite, les États membres garantissent les dépôts bancaires. Quand vous avez des dépôts sur votre compte courant, c'est garanti à hauteur de 100 000 euros par le gouvernement français, par exemple. Et il y a aussi beaucoup de garanties implicites, puisque lorsque des banques se sont retrouvées en situation de crise et notamment d'insolvabilité, donc en incapacité à faire face à leurs obligations financières, on a observé à de multiples reprises que les États membres sont venus à leur secours et ont remboursé leurs créanciers pour éviter une faillite qui aurait été désordonnée et aurait conduit à une perte de confiance dans le système financier dans son ensemble. En France, on a un système particulier, on a un souvenir particulièrement présent dans les mémoires. Je pense, à part peut-être les plus jeunes dans la salle, tout le monde se souvient du Crédit Lyonnais et du sauvetage du Crédit Lyonnais au début des années 90. Donc le Crédit Lyonnais, en partie cause d'un retournement de cycle financier et puis en partie à cause d'erreurs de gestion. Vous vous souvenez de Jean-Yves Abrère, d'une série de prises de risques excessives. Le Crédit Lyonnais s'était retrouvé dans une situation d'insolvabilité dans laquelle le total de ses actifs ne permettait pas de faire face aux échéances de remboursement de créances. Et c'est le Trésor français, à l'époque, je ne sais plus combien, 120 milliards de francs ou quelque chose comme ça, s'est porté en garantie et a remboursé les créances du Crédit Lyonnais pour éviter une perte de confiance dans le système financier français. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bail-outs, les renflouements de banques par les États membres, ce système de garantie. Dans l'autre sens... Donc ça veut dire que lorsque, évidemment, les finances publiques d'un État membre... D'abord, lorsque le système bancaire d'un État membre, la situation du système bancaire se dégrade, lorsqu'il y a des banques qui font faillite, ça veut dire que ça conduit à des coûts financiers directs pour le gouvernement de l'État en question, et donc une contagion depuis le secteur bancaire vers le secteur gouvernemental. Dans l'autre sens... Il y a également des canaux de contagion financière directe. Si le gouvernement d'un État membre se retrouve en difficulté financière, donc difficulté budgétaire, difficulté de remboursement de la dette publique, de la dette souveraine, ça a un impact direct sur les banques qui est un peu à deux versants. L'un, c'est que la garantie gouvernementale est moins puissante. Si le gouvernement n'arrive pas à faire face à ses fins de mois, on ne peut pas être assuré que si la banque se retrouve en difficulté, le gouvernement remboursera tous les créanciers, voire même remboursera les dépôts qui sont explicitement garantis, mais aussi, de manière encore plus directe, le fait que l'observation, on peut discuter des causes, c'est que beaucoup de banques de la zone euro ont sur leur bilan, dans leur actif, énormément de dettes publiques de leur État membre. Donc, par exemple, si vous prenez en France... Un exemple typique, c'est BPCE, donc le groupe des caisses d'épargne et des banques populaires. Ils détiennent énormément de bons du Trésor français dans leur bilan. Et donc, ça veut dire que si le crédit du gouvernement se dégrade, ça va avoir un impact direct sur la valeur de ses actifs et donc sur la qualité des bilans du secteur bancaire. Donc, contagion financière des banques vers les États, des États vers les banques. Il y a aussi des effets indirects de contagion qui est de nature plus économique. Si les banques vont mal, il va y avoir des problèmes de crédit dans l'économie, donc la croissance va diminuer, ça fait moins de rentrées fiscales. Le crédit du gouvernement, du coup, va en souffrir puisque les finances publiques vont avoir plus de coûts, par exemple l'augmentation de l'indemnisation du chômage, et surtout moins de rentrées fiscales et donc moins de revenus. Inversement, si le crédit gouvernemental se dégrade, ça va conduire à typiquement des politiques d'austérité, augmentation des impôts, réduction des dépenses publiques. Ça va avoir un effet négatif sur l'économie qui, du coup, va conduire à un certain nombre de faillites d'entreprises, par exemple, de difficultés de paiement des clients des banques. Et donc, ça va avoir un impact négatif sur la qualité des actifs bancaires et de dégradation des bilans bancaires et donc du crédit bancaire. Donc, contagion directe, contagion indirecte. Et puis, également des aspects qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer quantitativement, mais qui sont très importants, qui sont des aspects plus politiques. Donc, il y a des liens dans tous les pays du monde et dans tous les États membres de la zone euro, des liens politiques extrêmement forts entre le secteur bancaire et le secteur gouvernemental. En France, on a quelque chose qui symbolise un peu ça, qui fait l'objet de polémiques, qui est l'inspection des finances. Bon, ben voilà, un corps d'élite... Le président actuel en est issu. Je dois d'ailleurs mentionner, sans doute, pour être tout à fait honnête, que mon frère en est issu aussi. Il travaille maintenant dans le secteur privé, mais l'inspection des finances, c'est pas dans le secteur bancaire, mais dans l'inspection des finances, c'est un peu l'emblème de ça dans le contexte français. Ben, c'est un peu le même groupe social qui est dans les élites bancaires et les élites gouvernementales, en tout cas, au ministère des Finances, à la Banque de France, etc. Le gouverneur de la Banque de France est aussi un inspecteur des finances. Alors ça, c'est typiquement français, mais dans tous les autres États membres, il y a des liens un peu organiques, qui prennent des formes différentes, on peut appeler ça des systèmes de pouvoir, entre le secteur bancaire et le secteur politique. Et ce n'est pas une coïncidence, parce que les banques qui ont beaucoup de pouvoir financier ont besoin du politique, mais aussi, et peut-être encore plus, les gouvernements ont besoin des banques, parce que les gouvernements utilisent le secteur bancaire pour, un, se financer de manière préférentielle, et deux, utiliser les banques comme relais pour l'atteinte d'un certain nombre de leurs objectifs politiques et de politique publique. Pour donner un exemple français qu'on connaît bien, à une certaine époque, on avait l'encadrement du crédit, et donc c'était le ministère des Finances directement, la rue de Rivoli à l'époque, qui disait aux banques, eh bien, vous allez prêter à tel ou tel secteur, voire à telle ou telle entreprise. Donc le lien entre banque et gouvernement, ce n'est pas seulement une capture du système public par le secteur privé, en l'occurrence, dans la mesure où les banques sont privées, mais c'est par le lobbying, par les stratégies d'influence, mais c'est aussi dans l'autre sens, une capture, en quelque sorte, du secteur bancaire par les impératifs politiques. Alors, les économistes ont tout un jargon pour ça. Ils parlent de répression financière pour désigner l'instrumentalisation du système bancaire et plus généralement du système financier à des fins de politique gouvernementale et à des fins d'objectifs politiques. Ils parlent de nationalisme bancaire lorsque le gouvernement défend, par exemple, vis-à-vis des concurrents internationaux, de la Commission de Bruxelles, etc., les champions nationaux dans le secteur bancaire pour justement protéger ces liens. Un exemple extrêmement frappant, je dirais même assez choquant, qu'on a eu en France il y a quelques années, c'est lorsque le gouvernement français avait défendu BNP Paribas, qui s'était mise en position de violation des sanctions vis-à-vis du gouvernement soudanais. Donc à l'époque, le gouvernement du Soudan conduisait un génocide dans le Darfour. Vous vous souvenez sans doute de cet épisode un peu malheureux. Il se trouve que BNP Paribas a apporté énormément de services financiers au gouvernement soudanais, au point que les autorités américaines ont dit, je ne sais pas si la formule est trop forte, que BNP Paribas faisait office de banque centrale pour le gouvernement soudanais de l'époque, génocidaire. Et le gouvernement français a lutté bec et ongle contre les sanctions que le gouvernement américain a voulu imposer, a imposé d'ailleurs finalement avec succès à BNP Paribas, dans le cadre de cet épisode, parce qu'il y avait cette perception très ancrée dans le contexte français que le gouvernement devait défendre les champions nationaux. Voilà, je vais m'arrêter là sur le cercle vicieux banque souveraine, puisque j'ai déjà utilisé la moitié de mon temps là-dessus, mais c'est très important de bien comprendre les différentes composantes, encore une fois, financières, économiques et politiques de ce cercle vicieux, si on veut comprendre l'union bancaire, parce que l'union bancaire, au fond, n'est simplement pas autre chose que l'objectif de rompre ce cercle vicieux. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a été introduite dans le débat public. Lorsque les gouvernements se sont réunis à Bruxelles fin juin 2012, donc juste avant ce que Lucrezia a décrit, le lancement du programme OMT de la Banque Centrale Européenne, la première phrase de leur communiqué, c'est de dire « Nous affirmons qu'il est impératif de rompre le cercle vicieux entre banques et souverains. » Et ensuite, le paragraphe suivant est un peu plus technocratique, je ne vais pas le citer, mais ensuite, ils ont déployé les décisions qu'ils ont prises pendant cette réunion et qui marquent le point de départ de l'Union bancaire, le point d'origine de l'Union bancaire. Alors, il se trouve que cette réunion a anticipé de 3-4 semaines le discours de Mario Draghi à Londres sur l'OMT. Et donc, ce qui s'est passé au milieu de l'année 2012, c'est la conjonction de deux événements, pour simplifier un peu à outrance. Une décision politique des États membres, des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles, nous affirmons qu'il est impératif de rompre le cercle vicieux entre banques et souverains, sur la base de laquelle ils prennent la décision de créer le mécanisme de supervision unique, qui est un jargon un peu technocratique pour dire que l'autorité de supervision, de surveillance des banques dans toute la zone euro, toutes les banques de toute la zone euro, passe du niveau national au niveau européen et est confiée à la Banque Centrale Européenne, à la BCE. Il y avait d'autres éléments dans le communiqué, mais celui-là, c'est celui qui s'est révélé le plus durable. Et c'est sur la base de cette décision politique des 19 États membres de la zone euro qu'ensuite Draghi s'est senti autorisé, exactement comme l'a expliqué Lucrezia, un accord politique qui donne une couverture, d'une certaine manière, à la Banque centrale pour lancer un programme sans précédent, lancé d'abord de manière purement verbale, comme une affirmation de crédibilité, ensuite avec des éléments plus techniques, mais comme Lucrezia l'a rappelé, jamais utilisé en pratique. Simplement, le fait que ce programme existe a permis de faire revenir la confiance. Et même si vous n'êtes pas familier des courbes financières et des graphiques de Bloomberg, j'imagine que ça vient de Bloomberg. Bloomberg, c'est la source d'information, mais c'est des données qui sont à peu près publiques. Tout ça est extrêmement spectaculaire. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est une crise de la zone euro qu'on voit s'embraser de plus en plus et d'une manière complètement désordonnée à des niveaux qui sont absolument pas soutenables, puisque ce que vous avez donc en Espagne et en Italie au milieu de l'année 2012, c'est 5 ou 6 points de pourcentage. Donc ça veut dire que si la dette allemande est à, mettons, 2%, la dette espagnole ou italienne est à 7 ou 8%, et ça, ce sont des niveaux qui n'étaient pas soutenables à l'époque, Et donc ensuite, la conjonction, et même la France commence à piquer un peu du nez, enfin à se retrouver en zone qui n'est pas du tout comparable à l'Italie et à l'Espagne, mais enfin on voit la contagion se déployer à la France dans le courant de l'année 2011, début de l'année 2012. Et cette décision politique, suivie du programme OMT de la Banque centrale, et tout d'un coup, tout revient en ordre, tout revient au calme à la suite de ça. Donc c'est un événement extrêmement spectaculaire. On peut dire que c'est le moment où la zone euro a été sauvée, le moment où, au printemps 2012, les gens commençaient de plus en plus à intérioriser, souvenez-vous encore une fois, le mauvais équilibre, les gens commençaient à intérioriser l'anticipation, la prédiction d'un éclatement de la zone euro. Et il y a ces deux événements coup sur coup, très difficiles à distinguer l'un de l'autre, le démarrage de l'union bancaire, l'annonce du programme OMT par la BCE, et à ce moment-là, la zone euro est sauvée. Et donc, cet épisode est d'une importance absolument centrale pour quiconque veut comprendre le fait qu'on a encore des euros dans nos poches. Alors, l'union bancaire aujourd'hui, c'est effectivement, je l'ai dit, le mécanisme de supervision unique, donc le fait que l'autorité de surveillance des banques, mais qui va au-delà d'une fonction de surveillance, l'autorité publique qui impose aux banques des exigences de fonds propres, qui vérifie que ces exigences sont respectées, qui agit au cas où ces exigences de fonds propres et plus généralement des exigences de solidité du bilan et de solidité du modèle économique de la banque sont respectées. Si elles ne sont pas respectées, il y a des actions qui sont prises, qui peuvent aller jusqu'à, par exemple, nommer une nouvelle équipe de direction. Lucrezia connaît très bien cette... je peux en parler, c'est dans le domaine public.
Oui, oui.
Donc Lucrezia était administratrice jusqu'à récemment d'une banque italienne qui s'appelle Carige, la caisse d'épargne de Gênes, et vice-présidente même du conseil d'administration. Bon, il se trouve qu'à la suite d'un certain nombre de développements internes, une bonne partie du conseil d'administration, y compris Lucrezia, a démissionné en fin décembre, je crois. À ce moment-là, la Banque Centrale Européenne a l'autorité pour nommer des nouveaux administrateurs temporaires sur la base d'une législation européenne, ce qui est très frappant dans cette action de la Banque Centrale Européenne. C'est la première fois qu'elle a utilisé cet outil juridique qui lui est donné par une législation européenne qui a été adoptée en 2014. C'est que c'est une décision qui se fait absolument en court-circuitant complètement le niveau national. C'est une décision qui est prise par la Banque Centrale Européenne, par un conseil de surveillance des banques au sein de la Banque Centrale Européenne, dans lequel participe la Banque d'Italie, mais à parité avec la Banque de France, la Bundesbank, la Banque d'Espagne et les autres banques centrales nationales ou superviseurs bancaires. Mais ensuite, cette décision est immédiatement applicable. Encore une fois, ça rentre vraiment dans le détail des opérations, la nomination d'administrateurs temporaires qui sont les nouveaux patrons de la banque. Il se trouve que dans le cas d'Espèce, c'était les mêmes que les anciennes, mais en termes juridiques, ils étaient nouveaux. Et donc, une décision très intrusive, très directement applicable, prise entièrement au niveau européen. Bon, ça, c'est l'union bancaire telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire une infrastructure institutionnelle qui donne au niveau européen autorité sur le secteur bancaire, à la fois en matière de surveillance prudentielle et de tout ce qui va avec, donc ça c'est le mécanisme de supervision unique, et puis aussi un autre mécanisme, qui est ce qu'on appelle le mécanisme de résolution unique, qui est un instrument spécifique pour la résolution des crises bancaires, donc dans des cas où une banque n'est plus en capacité de continuer à poursuivre son activité bancaire, donc elle n'est plus viable, et à ce moment-là, elle entre dans une procédure qui est qualifiée par le jargon juridique de procédure de résolution. Et à ce moment-là, c'est une nouvelle entité qui a été créée, qui est maintenant opérationnelle à Bruxelles, qui s'appelle le Conseil de résolution unique, qui prend les rênes et qui prend les décisions sur la manière de résoudre, c'est-à-dire de faire en sorte que les actifs de cette banque puissent, et les dépôts bancaires et un certain nombre d'autres passifs puissent être repris par un autre acteur du secteur. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc, par exemple, le Conseil de résolution unique a pris sa première décision, qui pour l'instant est la seule, en juin 2017, sur le cas d'une banque espagnole, Banco Popular Espagnole, qui s'est retrouvée à avoir un problème extrêmement massif de liquidité, en l'occurrence. Donc la banque ne pouvait plus faire face à ses engagements de liquidité à court terme. La Banque Centrale Européenne l'a déclarée non viable. Le Conseil de résolution unique a pris les rênes et l'a revendu à une autre banque espagnole, la Banque Santander, dans la même soirée, donc de manière extrêmement rapide. Donc aujourd'hui, l'union bancaire, c'est cette infrastructure institutionnelle, le mécanisme de supervision unique, le mécanisme de résolution unique. Tout ça est très, très obscur, très jargonnant, très loin de la vie quotidienne, mais très important pour la vie des banques. Si vous prenez l'avion de Paris à Francfort ces temps-ci, il y a de fortes chances que vous croisiez des banquiers français qui vont à la BCE visiter leur autorité de surveillance. Personnellement, ça m'arrive à chaque fois que je prends l'avion entre Paris et Francfort. Il y a toujours quelques banquiers français dont il se trouve que je les connais, et je ne les connais pas tous, loin s'en faut, qui sont dans l'avion pour aller voir leur autorité de surveillance. Alors, je m'approche de ma conclusion sous l'œil attentif de Lucrezia.
Tu as le temps, hein?
J'ai encore 5 minutes. Et donc, je dois évidemment conclure sur une question qui est, est-ce que ce cercle vicieux, il a été rompu? Est-ce que cette infrastructure institutionnelle de surveillance prudentielle, de capacité de résolution des crises bancaires, suffit à atteindre l'objectif qui avait été proclamé pour l'union bancaire et qui était véritablement son objectif en termes économiques, la rupture de cercle vicieux, cette promesse en réaction à laquelle les marchés ont tout d'un coup redonné leur confiance à la zone euro? La réponse est non. Le cercle vicieux n'a pas encore été rompu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a de l'espoir. Et ce qui a été réalisé est une première étape essentielle si on veut arriver à cet objectif de rupture du cercle vicieux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été rompu? Parce que les mécanismes financiers et économiques que j'ai décrits de contagion existent toujours. Les garanties publiques sur le secteur bancaire, et notamment les garanties des dépôts, sont toujours pour l'essentiel nationales. Je dis pour l'essentiel puisqu'il y a des petites nuances à apporter, mais enfin, je n'ai pas vraiment la possibilité dans ce cadre de rentrer dans tous les détails, donc je simplifie un peu. Les actifs bancaires sont toujours en grande partie, enfin dans la mesure où ils détiennent de la dette souveraine, c'est toujours très largement de la dette de leur propre pays. Donc typiquement, les banques italiennes détiennent beaucoup de dettes souveraines italiennes. BPCE, comme je l'ai rappelé en France, détient beaucoup de dettes souveraines françaises, etc., etc. La même chose en Allemagne, d'ailleurs. Donc ces mécanismes de contagion directe financière existent toujours. Les secteurs bancaires nationaux reste extrêmement domestique, ce qui veut dire que les mécanismes indirects économiques que j'ai décrits brièvement tout à l'heure existent toujours aussi. Donc si vous avez un problème en Italie, ça va affecter avant tout des banques italiennes qui n'ont pas tellement d'activité en dehors de l'Italie et donc qui vont être très plombées par les problèmes italiens, etc. etc. Donc ce cercle vicieux, il est à peu près intact par rapport à la situation avant l'union bancaire, il y a 10 ans, dans ses composantes économiques et financières telles que je les ai décrites à grands traits. En revanche, il n'est plus du tout intact dans ses composantes beaucoup plus immatérielles, intangibles, qui sont les composantes politiques. C'est-à-dire que le fait de faire passer l'autorité de surveillance du niveau national au niveau européen à la BCE a beaucoup desserré les liens politiques, en termes de système de pouvoir, si vous voulez, entre systèmes bancaires nationaux et systèmes de gouvernement nationaux. Alors ça, c'est très difficile à mesurer. Ça ne se verra pour de vrai que s'il y a de nouveau des situations de crise, puisque c'est à ce moment-là qu'on peut voir véritablement qui est tenu par qui garantit qui. Mais je crois que c'est un changement qui est assez profond et qui va continuer à se déployer en fait, dans les années à venir. On n'en est qu'au tout début. Il s'agit d'une évolution extrêmement structurelle et donc dont les effets ne se font pleinement sentir qu'à moyen et long terme. Donc on est au début du parcours de ce point de vue-là. Et personnellement, j'ai bon espoir que ce desserrement des liens politiques entre secteur bancaire et gouvernements nationaux permette à une échéance que j'espère la plus proche possible de terminer le travail, de mettre en place les réformes qui sont des réformes techniques, qui ne nécessitent pas de nouveaux traités ou de changements politiques majeurs qui permettraient de rompre le cercle vicieux banque souveraine. Quelles seraient ces réformes, en deux mots et sans trop entrer dans le jargon? Une limitation par la réglementation bancaire des portefeuilles de dettes souveraines nationales, de manière à limiter cette exposition directe au risque souverain dans les structures des actifs des bilans bancaires. Une remontée au niveau européen de la garantie des dépôts, donc une garantie unique des dépôts au niveau européen. La Commission de Bruxelles a fait des propositions en la matière. Les propositions ne sont pas parfaites, elles n'ont pas été adoptées de toute manière, mais c'est quelque chose qui est sur la table. Et une élimination des possibilités qui existent encore de manière résiduelle pour les États membres d'imposer des limitations aux banques dans leur juridiction, dans leur périmètre. En anglais, on utilise le mot juridiction pour parler de ça, ce qui est pas toujours une bonne traduction en français, pour mettre fin à des pratiques de confinement géographique du capital et de la liquidité à l'intérieur de groupes bancaires intégrés, qui aujourd'hui est se fait au détriment de l'intégration bancaire européenne et de l'efficacité de l'union bancaire. Donc, pour vous donner un exemple, si vous prenez un groupe qui a des activités à la fois en Italie et en Allemagne, par exemple, le groupe UniCredit est un bon exemple, il est dirigé par un Français d'ailleurs, et donc ce groupe a racheté une grosse banque bavaroise au début des années 2000, mais les autorités allemandes l'empêchent de faire circuler l'argent, le capital, la liquidité entre ces opérations bavaroises et ces opérations italiennes. Donc ça, c'est pas bon pour l'union bancaire. Mais pour éliminer ça, je peux rentrer dans les détails des liens de causalité, il faut une garantie des dépôts européennes. Pour une garantie des dépôts européennes, il faut diversifier les portefeuilles de dette publique dans les bilans bancaires de manière à ce que ce ne soit pas simplement dans le pays d'origine. Donc ça, ce sont les réformes simples et pratiques qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc j'espère que la prochaine Commission européenne qui sera élue issue des élections européennes de fin mai de cette année les proposera et qu'elles seront adoptées. Ce n'est pas une prédiction, il n'y a pas de certitude que ces réformes soient adoptées dans les 5 ans à venir, mais c'est un scénario qui est loin d'être impossible. Comme je l'ai dit, tout ça ne nécessite pas de changement de traité, ne nécessite pas une union budgétaire, ne nécessite pas des eurobonds ou une mise en commun de tous les budgets ou les capacités des missions de dette souveraine. Donc ce sont des objectifs politiques ambitieux, mais pas utopiques, si vous voulez. Et c'est ça qui constituerait, de mon point de vue, ce qu'on pourrait appeler un achèvement de l'union bancaire qui ensuite permettrait à la zone euro de reposer sur des bases considérablement plus solides que celles qui existaient avant la crise ou même que celles plus solides mais encore insuffisantes qui existent aujourd'hui. Je peux peut-être conclure temporairement là-dessus, comme ça on a un peu de temps pour une interaction avec vous tous, et en vous remerciant encore beaucoup pour votre attention et en remerciant surtout Lucrezia pour son invitation.